France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Lucile Nova. Lucile, j'ai lu votre livre « Voir venir » que j'ai adoré pour beaucoup de raisons, notamment pour l'univers. Il y a un côté très mystérieux et très feutré quand on lit votre livre. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'univers de Twin Peaks dans l'ambiance ou encore à l'univers de Sofia Coppola.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Ici, c'est Saint-Denis, ville des rois ou de leurs cadavres, ville du peuple dont on parle en cette période post-électorale. Mais ville surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui au Book Club, de la maison de la Légion d'honneur qui abrite l'intrigue du premier roman de Lucile Nova. Une bande de filles à l'aura de velours et aux blessures secrètes, comme la France au fond. Des clés, une surveillante, des heures étranges depuis lesquelles voir ou ne pas voir venir le drame. Celles qui étudient ici ont un père, un oncle, un grand-père décoré de la Légion d'honneur et se crée autour d'elles, au pensionnat, une humeur, une vapeur, un halo de mystère. Empruntant certains des codes au conte, l'autrice nous les fait regarder comme une forme mutante, les écoute avec tendresse et gravité. Voir venir, c'est le titre du livre et ce n'est pas si facile. Lucile Nova est notre invitée. On finira sans suspense en musique pour le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Lucile Nova.
Bonjour.
Voir venir apparu aux éditions du Sous-Sol et il figure depuis quelques minutes, quelques heures sur la liste du prix Goncourt du premier roman. Félicitations, on vous souhaite bonne chance dans cette course-là. Ici, la course commence toujours par le portrait de nos invités en tant que lectrices et lecteurs et un portrait qui s'augmente du fait que vous-même, vous êtes censé donner le goût à d'autres de la lecture des textes, puisque vous êtes professeur de français dans une classe de collège. Vous voulez qu'on commence par vous en tant que lectrice ou par vous en tant que lectrice qui essayez de donner goût à la lecture à des adolescents?
Voilà, si vous commencez par me donner le choix, vous allez découvrir mon indécision.
Ok, alors commençons par vous en tant que professeur, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que ça suppose comme énergie, comme joie, comme difficulté en ce moment, au présent? On n'a qu'à vraiment se dire 2026, ça veut dire quoi enseigner le français là où vous le faites?
Je suis prof de français dans un collège à Bondy. Je salue chaleureusement mes élèves. Ça veut dire quoi enseigner le français? Ça veut dire
suivre un programme.
Un programme, mais pour l'instant au collège, dans ma matière en tout cas, on est vraiment encore assez libre. Mm-hmm. C'est vraiment juste des grandes thématiques, mais après on remplit, on nourrit ces thématiques par les textes qu'on veut un peu. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant c'est le cas. Et j'ai l'impression que c'est surtout, en tout cas ce qui est le plus excitant à mon sens et qui marche le mieux, c'est quand on trouve, et parfois c'est des textes pas très mystérieux qui appartiennent clairement aux grands classiques, mais quand on trouve un texte qui marche et dont d'un coup un groupe d'élèves, de 24 ados veut se saisir et veut parler, quoi.
Vous vous souvenez de la dernière fois que ça a fait ça devant vos yeux dans une classe?
En fait, ça arrive souvent.
Ouais. Contrairement à ce qu'on raconte.
Ouais. Mais en fait, il y a peut-être une distinction à faire entre le fait de vraiment lire des livres à la maison
et être animé en classe de français autour d'un texte, bien sûr.
Et le fait d'avoir un texte, un extrait sous les yeux. Et d'un coup ça rend la littérature très vivante, je crois. Donc par exemple, je parle souvent de l'effet que provoque l'Iliade chez des cinquièmes, mais là récemment c'était même, vous allez me dire, c'est vraiment hyper plat parce que c'est des choses que tout le monde a étudiées à l'école. Mais par exemple Antigone de Jean Anouilh là récemment avec une classe de troisième, en fait le moment où on commence à vraiment débattre est-il juste de désobéir à des lois injustes, il y a quelque chose qui se passe. Et parfois parfois j'ai l'impression que c'est presque plus à par exemple si on prend Homer, je rends plus service à Homer qu'à mes élèves. c'est la classe, c'est le groupe qui est en train de ranimer, de rendre plus vivant ce texte qui sinon mourrait si on posait pas les yeux dessus. Et donc c'est pas tellement que, enfin oui, je nourris leur culture, j'essaye de les faire grandir, découvrir réfléchir à des grandes questions philosophiques sur la vie, etc. Mais j'ai l'impression aussi que c'est eux qui pratiquent cette espèce de sorcellerie
de
ranimer des histoires, des personnages, de les faire ouais, d'un coup prendre cher un peu dans la classe, quoi.
Et pour ce qui est de d'Homère et l'Iliade ou des mots de Jean Anouilh pour Antigone, qui a laissé, je pense, vraiment une trace quand même très très profonde dans la tête de beaucoup d'entre nous, y compris des gamins qui n'étaient pas tout à fait comme moi séduits par la lecture. Est-ce que la langue, est-ce que la poétique de ces textes-là est au cœur de vos conversations? C'est-à-dire, au-delà de faut-il ou non aller enterrer son frère dans la nuit est-ce que vous parlez de la langue? Parce que pour ces deux textes-là, c'est majeur.
Ouais. En effet, je dirais que c'est peut-être pas le cœur de,
c'est ou en tout cas
c'est
pas,
c'est peut-être pas en premier. Ça arrive bien évidemment, et c'est important pour moi. Et peut-être que en l'occurrence, je sais pas si Homère et Anouilh seraient les meilleurs exemples, mais il arrive, je sais pas, qu'on travaille bien évidemment, enfin voilà, qu'on lise de la poésie ou parfois même de la littérature contemporaine où il va y avoir des choses dans le style qui vont interloquer les ados et qui font qu'on va se mettre à parler d'écriture, quoi, de style.
Mais ils sont plus animés, pour reprendre ce terme-là, par ce que ça soulève comme question chez eux, au présent.
Par les enjeux, les enjeux vraiment éthiques. et peut-être même avant ça, avant la question des enjeux, ils vont être... en fait, ils aiment les histoires, mais comme tout le monde, mais voilà. Et donc, très honnêtement, Homère, en cinquième, j'ai l'impression que ce qui compte, c'est...
Est-ce que Achille va aller faire la guerre ou pas, quoi?
Enfin, je veux dire, en fait, je pourrais presque je le dis sans aucune forme d'arrogance, même si ça va sonner un peu bizarrement, mais on n'a même pas besoin du texte. Parce que c'est des cinquièmes, je veux dire, et que du coup, c'est une version qui est tellement simplifiée, abrégée, etc. En fait, je peux presque leur faire toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui est important, c'est l'histoire. Et ça, vraiment, il faut que je le garde en tête, parce que parfois je prends une espèce je vois mon métier avec une forme de surplomb de « Ah, il faut faire de la grammaire, et aussi il faut pas que j'oublie de faire la méthodologie ceci, cela, etc. Et comment faire pour que la classe, pour penser que, comment dire, pour m'assurer que le cours se passera bien au sens où je vais réussir à capter leur attention. Et en fait, je me rends compte à chaque fois, et je dois me rappeler à chaque fois que finalement, les meilleurs cours sont ceux où on a une histoire. Voilà, il y a une histoire à raconter. Et là, il y a une qualité d'écoute et une espèce d'union qui se fait, quoi.
Et la question de la trace que laissent les histoires, les grandes histoires, qu'elles soient mythologiques ou des contes ou des histoires de chacun d'ailleurs, est au cœur de votre roman, Lucile Nova. On va y venir. Vous étiez quoi comme collégienne dans votre rapport à la lecture?
Je pense que j'avais j'avais aussi un rapport très oral aux histoires. Enfin, c'est dit bizarrement comme ça, mais je veux dire, j'ai le souvenir de notamment de ma grand-mère qui me raconte des histoires sans livre. Et d'ailleurs, du coup, je mélange tout. J'en parle un peu dans mon premier essai de Grande Dent. J'arrive pas du tout à faire le tri entre qu'est-ce qui appartient à la vie de ma grand-mère, l'Ancien Testament ou la mythologie grecque, quoi. Mais vraiment des
bon mélange,
des confusions vraiment parfois très gênantes et certaines histoires dont on n'a toujours pas trop retrouvé la source. Et donc je crois que j'ai pas un rapport particulièrement fétiche à l'objet livre, quoi. Il y a l'idée comme ça que une bonne histoire, enfin, savoir bien raconter une histoire à l'oral, c'est peut-être ce qui est presque le plus important, et ça, je pense, ça m'a marqué. Et après, pendant très longtemps, je suis vraiment une lectrice de littérature jeunesse, plutôt contemporaine. Voilà, je crois qu'on n'essaye pas trop de me mettre à tout prix des classiques entre les mains. Et qu'à quelques exceptions près, voilà, je pense que Roméo et Juliette est arrivé dans mes mains assez vite et m'a marqué et encore présent dans Voir venir. Mais sinon, c'est plutôt voilà de la littérature jeunesse. J'aime les trucs qui me font rire, j'aime les dystopies. Je me souviens de la collection Scripto où je deviens complètement. Enfin voilà, je veux juste tout lire et en même temps, aucun de ces livres ne m'a laissé une trace très importante. Mais
sinon, le goût de la lecture et l'envie de lire.
Ouais. Et en fait mon arrivée par ailleurs j'aimais bien écrire déjà je crois. Donc bon, je me sentais plutôt disons l'âme d'une littéraire et en fait je me suis pris une première une espèce de stop quoi en troisième où vers la fin de l'année ma prof nous fait lire Boule de Suif et Un cœur simple. Donc Boule de Suif de Maupassant, Un cœur simple de Flaubert, de très courts textes de nouvelles. Pendant les vacances, il y a un petit contrôle à la rentrée. Et vraiment, j'ai détesté. C'était horrible, mais parce que...
Vous avez détesté le contrôle ou la lecture
pendant les vacances ? La lecture. J'ai détesté la lecture parce que... Je comprenais pas. C'était... Cette langue du 19e, elle m'ennuyait. Je sais pas, je devais être vexée de pas très bien comprendre. Et je me souviens vraiment d'avoir une mauvaise note au contrôle, alors que par ailleurs, j'étais un peu, je pense, la chouchoute. Et la prof qui me dit « Ah, mais tu t'es vraiment moqué de moi, Lucille ?» Et j'étais vraiment « Mais c'est toi qui t'es moqué de moi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
Vous passiez d'un monde où vous vous sentiez chez vous à un monde où vous n'étiez plus chez vous, quoi.
Ouais. Et en fait, il a fallu un peu de temps avant que je me rabiboche et que finalement j'embrasse vraiment
et que vous décidiez d'en faire votre métier aussi.
Ouais.
Des études supérieures.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans la suite de votre parcours une fois que vous êtes rabibochée avec le fait de lire?
En fait, je pense que j'ai continué au lycée à aimer lire mais non, sans que grand chose me marque spécifiquement, quoi. Je pense que je tâtonnais, je cherchais ce qui me plaisait, donc je lisais quand même, je pense, beaucoup, mais voilà, sans fulgurance, mais quand même, je me suis retrouvée en fac de lettres, au temps béni où il suffisait d'avoir son bac pour rentrer à la fac de lettres.
C'est le cas.
Je pense que ça, c'est de plus en plus compliqué. Alors, la fac de lettres, c'est pas la plus demandée, mais je crois que c'est quand même de plus en plus difficile depuis que la fac est devenue un peu sélective avec la tragédie Parcoursup. Mais donc, je me suis retrouvée en fac de lettres un petit peu par hasard, lettres modernes. Moi, je croyais que lettres modernes, ça voulait dire littérature du 21e. Enfin, bref, j'étais vraiment à l'ouest. Et en fait, là, ça a été la révélation. Enfin, là, il y a vraiment eu un choc, je pense, qui est passé pour le coup par des profs, et bon, notamment qui. Et là, j'ai découvert que. Qu'il y avait des enjeux, en fait, justement, que quand on lisait un texte. Et ça passait vraiment par une espèce de culture anthologique au début. Vraiment, on étudiait beaucoup d'extraits en classe, puisque à la fac, en lettres, en tout cas à Paris 3, on passe d'abord 3 ans de sa vie à faire des commentaires de texte. Mm-hmm. Même pas tant de dissertation que ça, quoi. C'est vraiment le commentaire de texte. Donc mm-hmm. on se force à regarder à la loupe des extraits qui font une page. Et là, je découvre que même... dans un extrait du paysan parvenu de Marivaux, truc du 18e, qui a pas grand-chose pour me séduire en apparence, et ben il y a une espèce de puissance, de subversion, que mon prof parle de, que ce soit sur ce texte ou sur d'autres, quand il va parler de Louis XIV ou de Napoléon, il en parle en fait avec la même rage qu'il ne parlerait de Nicolas Sarkozy qui est président à l'époque. Ça me marque profondément parce que je pense que du coup, c'est le moment où je comprends que tous ces textes que je vais étudier, donc notamment des textes du 19e que j'avais boudé,
avec
Zola,
le contrôle après les vacances.
Balzac, voilà, que en fait, c'est des clés de compréhension du monde, quoi. que d'un coup l'histoire qui me semblait une matière un peu plate, pareil, enfin tout, il y avait tellement de choses qui me semblaient mortes à l'école, quoi. C'était, en fait, j'aimais pas tant que ça à l'école, quoi, même si je suis devenue prof après. Tout ça me semblait assez mort. Et en fait, à la fac, peut-être grâce à des bons profs, peut-être grâce à aussi en ayant gagné une forme de maturité, je me rends compte que tout ça est très vivant et que ça va m'aider moi à comprendre le monde, à mettre des mots sur ma propre colère politique, par exemple. Et voilà. Et donc, bah, là, après, s'il faut parler de livres qui me marquent, bah, du coup, petit à petit, je vais découvrir Duras, qui va être très, très importante, sans grande originalité, mais qui va vraiment me fixer. C'est comme si j'avais cherché pendant longtemps quelque chose et que là, d'un coup, je trouvais l'endroit où j'étais bien.
Et vous sauriez dire pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dans votre texte, Lucille Nova, où la trace que laissent les textes dans nos vies, comme presque cousue ou tatouée à même la peau, c'est tangible, quoi. C'est vraiment... C'est pas du discours. C'est dans votre livre, on sent que la langue, comme les existences, sont écrites par les textes qu'on a lus. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi, par exemple, Duras pourrait avoir ce rôle-là dans votre vie à vous ?
Bah non. en fait, en fait, je sais pas. En fait, qu'est-ce qui fait que depuis, enfin même après ça, quoi, voilà, qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce qui fait. En fait, j'ai l'impression que je lis beaucoup, je cherche beaucoup. Je commence plein de livres, je les finis quasiment jamais. Je lis beaucoup de littérature contemporaine aujourd'hui. Qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce qui fait que... C'est comme si je lisais... En fait, c'est un rapport intranquille, vraiment, à la littérature. C'est comme si je cherchais à vérifier si ça peut me faire effet. si ça marche encore. Ou si ça... Ou si... Ça y est, en fait, il n'y avait que Duras et Guibert et... je sais pas, Monique Wittig. Et donc, c'est une espèce de quête comme ça. Et quand je trouve... Il y a une espèce de calme qui arrive de ah là
alors c'est vrai
ouais. Donc c'est vrai, c'est ça, ouais. et c'est donc très difficile d'expliquer pourquoi est-ce que cette année j'ai fini et aimé tel voilà, je sais pas, c'est des textes souvent très là, les je viens de lire La Route de Cormac McCarthy, j'ai l'impression que ça me sauve la vie, je sais pas comment dire, ça me... et en même temps, c'est hyper tarte à la crème de dire ça, mais c'est au milieu de plein de tentatives de lecture échouées. Et en même temps, juste avant ça, j'ai lu un truc beaucoup plus contemporain de L.A. Chart qui s'appelle Tupa Madre. Où, pareil, c'était... Ah, ça fait du bien, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà.
Oui, vous allez vérifier que c'est vivant, quoi.
C'est ça.
Ouais. On va parler de votre livre à vous voir venir juste après ce titre de Dominique Fils Aimé qui s'appelle Moonchild.
Go on, grow, little flower. Moonchild, you were safe to be as delicate as a lace of your petals. Gonna grow, little flower. Let the joy freely move through your body.
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 Let the joy freely move you.
Let the joy
Let the joy freely be you. Let the joy freely be you. Let the joy freely be you. Let the joy freely be you.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La délicieuse et tragique épouvante de l'adolescence aujourd'hui au programme de votre book club. Le tout dans l'univers cloîtré de la maison de la Légion d'honneur à Saint-Denis où Lou, Yasmine, Adèle et Suzanne sont élèves internes. Elles s'endorment chaque soir dans le grand dortoir du pensionnat. Tout en elles semble s'être mis au diapason, le passé, le présent, jusqu'au cycle menstruel. Vanessa, dont des bribes d'enfance malheureuse nous sont par ailleurs contées, est leur surveillante et cette idée de veiller est importante. Elle a grandi à Saint-Denis, son passé à elle se présente aux grilles de l'internat et dans les vocaux de son téléphone portable, tandis que le destin des jeunes femmes, cette grappe à la lueur rouge, vénéneuse comme une serre tropicale, descend aux enfers sur l'horloge détraquée de votre premier roman, Lucille Nova. Voir venir, c'est le titre de ce si beau livre qui apparaît aux éditions du Sol et qui figure désormais sur la liste du premier liste du prix Goncourt du premier roman. On en parle avec vous. J'ai commencé l'émission en disant « Ici, c'est Saint-Denis » pour la blague et le plaisir, mais aussi parce que c'est important. Et avant de dire ce que vous en faites d'un point de vue, on va dire, littéraire, romanesque, fictionnel, est-ce que vous voulez bien nous dire ce qu'est cette maison de la Légion d'honneur pour de vrai, Lucille Nova ?
Oui, merci d'avoir commencé l'émission par « Ici, c'est Saint-Denis ». La maison d'éducation de la Légion d'honneur, elle a été créée par Napoléon. Et en fait, c'est le meilleur lycée public de France. Sauf que il est public d'une manière bien particulière, puisqu'il est en fait réservé aux descendantes de médaillés de la Légion d'honneur. Voilà. Et comme cet endroit...
Ça s'explique, le descendante ? À un moment donné, vous dites que elles sont, en effet, consignées là, selon deux diagonales que seraient leur ascendance et leur genre et leur sexe. Pourquoi les descendantes ?
C'était, en fait, il y avait des équivalents... en fait, c'est parce que ça s'est créé à un moment où la médaille de la Légion d'honneur est destinée aux militaires, alors qu'aujourd'hui, en fait, elle est pour moitié décernée à des civils. Et donc, l'idée, c'était qu'on allait créer un lieu un peu sanctuarisé pour les orphelines de guerre, en fait. Avec l'idée qu'il existait déjà des institutions, et notamment des institutions militaires, d'ailleurs, pour les garçons, et que les filles étaient un peu en reste de ce point de vue-là. Donc
la mort rôde dès le départ autour de cet endroit.
Oui, en tout cas, il y a quelque chose dans le symbole même de la médaille de la Légion d'honneur qui comporte quelque chose d'un peu peut-être vicié. En tout cas, dans le cas de nos personnages, cette espèce de don dont elles héritent pour qui est leur clé en fait pour ouvrir les portes de la maison d'éducation, c'est un cadeau qui semble parfois un peu corrompu, quoi.
On l'a dit tout à l'heure en début d'émission, vous enseignez à Bondy en Seine-Saint-Denis. Il se trouve que je fais pas que une blague en disant ici c'est Saint-Denis, c'est-à-dire que c'est une ville qui a avec elle et un département qui porte avec lui une histoire, des représentations, et au milieu de quoi vous choisissez cet endroit très très spécifique qui pourrait même dénoter. Est-ce que ça vous intéresse, ce territoire-là ? Est-ce que vous écrivez aussi là-dessus d'emblée, Lucille Nova ?
Oui, bien sûr. C'est vraiment ça qui clique dans mon envie au départ de d'écrire là-dessus. Alors, c'est un peu particulier parce que du coup, je me mets dans le huis clos qui n'a pas grand-chose à voir avec
le reste
à l'extérieur. Mais bon, c'est une manière d'aborder les choses. Mais oui, bien sûr, j'espère que le fait de placer ma focale au sein de cet endroit, cette espèce de bunker ou de château de comte, c'est à voir, ça permet quand même de dire et de montrer quelque chose sur la ségrégation en fait à l'œuvre donc dans le 93, qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine. Et comment dire, je pense que si moi-même je suis au départ, donc comme je disais, je clique et je sens quelque chose qui va, voilà, l'envie, une espèce de colère ou de sentiment un peu d'outrance, où je me dis non mais qu'est-ce que c'est que cette école, c'est en partie parce que peut-être parce que je suis prof, ou c'est peut-être en même temps ça qui m'avait amené déjà en premier lieu à enseigner dans le 93, mais c'est que j'ai conscience très fortement de la ségrégation sociale, raciale, scolaire à l'œuvre dans le pays, et que du coup l'existence de ce lieu hautement privilégié dans un endroit qui est par ailleurs à ce point démuni et maltraité institutionnellement parlant, bah, fallait en faire quelque chose, quoi.
Et en même temps, en vous plaçant fictionnellement dans ce bunker, vous permettez aussi que des voix de partout arrivent, parce que ce qui les mène là, c'est leur histoire et leur ascendance. Il y a une voix dionysienne, c'est Vanessa, qui veille. C'est vraiment la figure de la veilleuse, de la veillante, de la surveillante, on y viendra. On va écouter un premier extrait, peut-être pour regarder comment vous regardez cet endroit à Dulcinova.
On s'approche, mais la maison n'a pas de contour dans l'obscurité. On l'imagine petite et rectangulaire entre les doigts, comme un hôtel sur un plateau de Monopoly. Les grands cadres des fenêtres forment un retable lumineux, suspendu dans la nuit. En bas, à droite, un salon est resté éclairé. Il est vide. On y distingue une banquette en velours, un bureau en pierre, le tableau d'un mec à cheval accroché au-dessus. En haut, à gauche, on aperçoit un bataillon de poupées brossant leurs cheveux entre les barreaux de lits superposés. Elles soufflent des secrets qui ne nous parviennent pas, puis se pressent lorsque sonne l'extinction des feux. Si Vanessa redescend pour fumer après avoir couché les filles, elle verra clignoter, là-haut à la fenêtre du dortoir, l'éclat bleuté des écrans sous les draps. On peut s'éblouir. On peut croire, après que les filles se sont endormies, si l'œil s'est attardé trop longtemps, que les petites lanternes livides sont encore là, qu'elles se meuvent même, viennent s'installer dans l'encadrement d'une fenêtre, et tout proche de la vitre, on peut croire, oui, qu'elles se mettent à raconter alors ce qu'il est arrivé au monarque autrefois enterré dans la basilique adjacente. Monstre de choix. Privilège jusque dans l'élection des fantômes couronnés qui hantent leur jeu nocturne. L'histoire est vraie, jure une voix d'enfant, et commence ainsi. Tous les rois de France étaient ensevelis à Saint-Denis. La basilique était leur sépulcre. Pour immortaliser leur sommeil de pierre, on avait sculpté les tombes, et ainsi des dizaines de gisants dormaient ensemble dans ce long caveau. Ils étaient là, étendus et froids, quand au matin du 12 octobre 1793, la meute des révolutionnaires força à coups de bélier la lourde porte, laissant se déverser dans le mausolée un flot de soleil et de gens. Ils allaient ouvrir les cercueils.
Un premier extrait de votre livre « Voir venir », Lucile Nova, où c'est l'une des vues, finalement, de la maison de la Légion d'honneur. Mais vous la regardez à plein d'endroits, quoi. Il y a plein de façons de la regarder. Un petit peu avant, dans votre texte, vous plantez aussi un autre décor, des pensionnaires dans la brume. Et donc, vous rattachez ce pensionnat, cet internat, ce décor, à une tradition des fictions qui se rattacherait à ce décor-là. Mais ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est presque ce qu'il y a à côté du pensionnaire, les rois et leurs cadavres. Et je vous avoue qu'en programmant cette émission, en ayant envie de parler de votre livre, c'était en même temps que l'élection de Bali Bagayoko et avant l'espèce d'immense vague de racisme qui s'est aussi abattue. Et Et il a dit ça au moment de son élection, il a dit c'est la ville des rois, c'est la ville du peuple. Et on pourrait rajouter avec votre roman, c'est la ville du cadavre des rois. Mmh. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, d'une révolution qui n'en finit pas de se raconter à Saint-Denis. Oui, il y a tout ça qui est là, en fait, dans votre roman. C'est, peut-être l'écho, évidemment, n'était pas prévisible, ou quoique.
Mmh. Ouais, c'est trop bien. J'aime trop quand la réalité est à la hauteur de nos espérances. C'est assez rare. Oui, en fait, c'est ça qui est quand même marrant avec cette affaire, c'est que c'est la ville des rois, mais en fait, ce que je raconte là, en me prenant pour Victor Hugo au début de mon, je fais deux pages de pastiche un peu de roman historique, je le fais avec plaisir.
Et précieusement pour nous. Je veux dire, tout le monde n'a pas nécessairement en tête ça, et ça nous donne aussi un bagage pour ensuite se promener dans le roman.
J'espère. Mais en fait, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que c'est la ville des rois, mais en fait, les tombes, les gisants ne recouvrent plus véritablement de corps à la basilique Saint-Denis. En fait, une très très grande partie a été en effet donc saccagée dans ces événements révolutionnaires. On a vraiment ouvert les tombes et on s'est vraiment débarrassé de ces corps très très encombrants, quoi, des monarques. Donc oui, il me semblait intéressant de le rappeler au début et dans cette espèce de, je sais pas si on l'entendait là, mais vous l'avez dit un peu en préambule, de cette espèce de concert de voix, quoi. Enfin, concert, c'est pas le bon mot, mais il y a des voix qui fusent un peu de partout.
Une
quoi.
Brume, un peu.
Pas trop, On sait jamais vraiment qui parle dans cette affaire. Mais ouais, là, il y a une voix d'enfant qui raconte ça. Et donc, qu'est-ce que c'est aussi...
L'histoire est vraie, dit une voix d'enfant.
Qu'est-ce que c'est que cet enfant qui raconte? Est-ce qu'elles sont à ce point privilégiées qu'elles peuvent se faire peur avec le corps
des rois, privilèges jusqu'à l'élection de leurs fantômes. Mais de toute façon, il y a quelque chose, puisque d'emblée, il y a à la fois leurs privilèges, cette maison d'éducation, quelque chose aussi que Evanessa et nous avons plaisir à regarder avec tendresse, voire avec sensualité. Mais il y a la mort qui est tout le temps là, dès le début. Voilà, vous le dites partout, tout le temps, elle est tout le temps là. Et elle est là aussi sous son aspect délicieux de l'épouvante. C'est qu'elle est aussi là en disant « Attention derrière toi !» Elle est aussi là dans la nuit, elle est aussi là dans les jeux d'horreur qu'on invente en colo de vacances ou dans les fratries. Enfin, avant qu'elle ne devienne peut-être pour de vrai dramatique ou après qu'elle a été pour de vrai dramatique, elle est aussi là comme étant le régime du désir, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur laquelle vous jouez, Lucie Nova.
Oui, complètement. Il y a vraiment un plaisir pour moi, déjà en tant que lectrice, mais un peu frustrée. J'en trouve pas tant que ça. Mais aussi en tant que spectatrice de cinéma, de me faire peur, quoi. C'est quelque chose d'important pour moi et qui me tient éveillée, quoi. J'ai l'impression. Et j'espère avoir réussi à faire passer ça aussi, quoi, dans mon histoire des personnages qui, des histoires, des choses qui font frissonner, voilà, au détour d'une page, quoi.
On va écouter la voix de Bernadette Bricout, qui parle justement de ces histoires qui font frissonner, notamment du côté des contes, puisque ça fait partie de ce que vous étudiez dans votre premier essai.
Lévi-Strauss disait « La terre de la mythologie est ronde » et on ne saurait mieux dire « Chacun de ces récits renvoie à un univers ». Au fond, vous voyez, on est dans la trame de la planète des contes. C'est un ensemble où chaque pièce du puzzle vient s'imbriquer étroitement et est à peu près inséparable des autres. Oui, tout fait sens dans le conte et... Toutes les lectures que l'on fera d'un conte ne parviendront jamais à en épuiser le sens en même temps. C'est ça qui est vertigineux et merveilleux, c'est que le voyage n'est jamais fini.
Arrivée à la Légion, Yas avait eu le sentiment de retrouver un lieu familier, comme une princesse franchit les portes du palais après avoir été élevée par un couple de bûcherons. Voilà, c'était ça. Elle rentrait au château. L'adolescence avait fait subir à ce fantasme une âpre révolution. Avec le temps, elle s'était mise à considérer sa petite histoire sous un autre angle. Quand avait-elle manifesté l'envie de rentrer au château? N'était-ce pas en vérité le couple de bûcherons qui l'avait abandonné ? Est-ce qu'il s'était seulement retourné après l'avoir déposé sur les marches du palais pour voir si tout allait bien ? À partir de là, ce furent les parents de Yas qui se sentaient étrangers lorsqu'elle rentrait à Drancy le samedi soir. Qui était-elle, cette jeune fille au contour familier, mais si différente de la petite Yasmine qu'ils avaient envoyée à l'internat quelques années plus tôt ? Son regard soucieux d'autrefois s'était agrandi en deux larges étoiles noires, fixes dans leurs orbites. Son corps s'était allongé jusqu'à les dépasser complètement. En même temps qu'elle avait taillé à coups de hache l'apparition de ce qui promettait de devenir des hanches généreuses, Yas avait imposé la même privation à son prénom, et chaque fois qu'à la sortie du métro, un jeune homme tentait de lui emboîter le pas pour faire connaissance, elle fendait la foule, resserrait d'un cran sa ceinture et poursuivait l'ascèse qui l'amènerait à n'être plus qu'un long Y élancé. Aussi, les parents de la petite Yasmine n'avaient-ils pas reconnu leur fille lorsqu'ils l'avaient vue monter sur l'estrade à la fin du collège pour récupérer son diplôme ? Comme elle avait de grandes jambes, comme elle avait de grands yeux. Ils avaient été subjugués par cette longue inconnue portant leur nom. Qu'avait-il fait ?
C'est délicieux cet entrelac de voix, Lucile Nova, c'est-à-dire qu'on est aussi séduit au bon sens du terme de reconnaître dans votre prose de vieilles phrases, l'arrivée au château, la princesse, comme elle avait de grandes jambes. Il y a quelque chose dont on s'amuse là aussi avec effroi, parce qu'on sait ce qui arrive aux petites filles qui connaissent ces phrases-là. Est-ce que vous voulez bien nous parler, depuis le titre que vous choisissez, jusqu'à, alors sans dévoiler la fin, mais de la manière dont les contes trament l'écriture de Voir Venir ?
Oui, en fait, sur ce plaisir de l'intertextualité que j'éprouve aussi beaucoup, tant quand je suis lectrice que là quand j'écris, je pense que ça va au-delà des contes. En effet, il y a
plein, ouais.
On retrouve Orphée vers la fin. On sent aussi que c'est des très bonnes élèves qui sont donc habitées par aussi toute une culture patrimoniale très masculine. Pas si mauvaise, mais voilà.
Mais en l'occurrence, du côté des contes, c'est hyper partagé.
Mais c'est vrai que les contes,
c'est pour tout le monde.
Ouais, exactement. Et les contes, c'est pour tout le monde, en effet. Alors ça trame. Bon, donc il y a le titre Voir Venir qui veut faire écho à la supplique adressée à la sœur Anne dans Barbe Bleue, quand la jeune fille anonyme, malheureusement, du conte de Perrault est acculée, prête à être assassinée par Barbe Bleue. Elle appelle sa sœur à la fenêtre. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et sa sœur de répondre, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, et ce plusieurs fois, comme ça, comme une espèce de ritournelle qui fait monter le suspense de manière assez insoutenable. Bon, donc ça se voulait une référence à ça, à la fois bah, parce que j'aimais bien l'idée d'avoir un titre de roman de gare alléchant, dont on aura très très envie de tourner les pages jusqu'au bout. Mais c'était aussi une manière de faire entendre l'expression d'un privilège, parce que voir venir, c'est aussi le luxe de qui a un horizon dégagé, et notamment d'un point de vue scolaire, voilà, et donc comme c'est le cas de ces adolescentes là. Et pour ce qui est de Vanessa, vous l'avez
dit. La surveillante.
Dit, voilà, la surveillante, Vanessa, elle est là, dans son rôle, quoi, c'est de voir, voilà. Elle est là, elle voit. On parlait tout à l'heure des voix, de ce qu'il y a à entendre pour le lecteur. Mais Vanessa, surtout, elle voit des choses, quoi. Voilà.
Mais il y a aussi l'idée que de voir venir, comme la sœur Anne, on n'est pas sûr en fait de voir venir, notamment de voir venir le drame. On a beaucoup parlé de l'inquiétude, on a beaucoup parlé de ce que vous faites planer autour de ces jeunes filles, un peu par goût, mais aussi par menace, Lucile Nova. Et on ne dira pas, mais il y a probablement quelque chose qu'on ne voit pas venir, dont on est aveuglé et pourtant dont on est paradoxalement prévenu. C'est aussi le goût de votre roman qui s'organise, je le disais, selon une horloge détraquée. Les courts chapitres nous sont indiqués par des heures qui sont aucunement chronologiques, qu'on pourra éventuellement s'amuser à réorganiser après, mais qui sont l'inverse de voir venir, qui sont l'inverse d'un décompte, qui sont l'inverse de je vais vous expliquer comment nous allons descendre aux enfers. Et il me semble que votre roman, il parle aussi beaucoup de... Oui, bien sûr, de cette Vanessa qui regarde avec tellement de tendresse, d'amour presque, y compris dans son langage, ce groupe, ce harem qu'elle dit, ce même ce bordel, mais dont elle ne voit peut-être pas venir, oserais-je dire, l'autodestruction. Et je m'arrête là. On est finalement très aveugle, on voit peu venir.
Oui, bah ça c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est le titre d'un roman à suspense, quoi. C'est qu'il y avait cette idée de, alors je le dis en rigolant un peu, alors que ça comporte une forme de gravité, mais c'était oui l'idée d'essayer d'y. En fait, c'est un roman aussi, notamment sur l'aveuglement, le déni. Et donc, oui, de ce point de vue-là, voir venir est un titre un peu ironique. Oui. Et d'ailleurs, pour en revenir à la question du conte, c'est impossible pour moi de déplier tous les usages, entre guillemets, du conte que je fais dans le roman et comment il m'habite. Mais parfois, il me prête ses précieux affects. Mm-hmm. Et j'espère que reconnaître quelque chose qui ressemble à des contes qu'on a lus autrefois va augmenter les frissons de notre émotion, quoi. Mais parfois aussi, et je pense que ça s'entend dans l'extrait qu'on vient d'entendre, parfois aussi c'est un vernis satirique, en fait. Parce que ce château, c'est pas vraiment un château. C'est encore une fois, c'est plus une gated community. Vous voyez, on croit qu'on va pouvoir élever des petites princesses en vase clos, mais en vérité, c'est pour ça aussi que dans le premier extrait, on a entendu comment je miniaturisais un peu cet endroit. C'est comme si, du coup, j'allais l'observer comme un milieu biologique.
D'ailleurs, qui est une maquette. Qui est une qualité que vous donnez presque aussi au corps que finissent par former ces jeunes femmes. Elles finissent presque par être une sorte de biologie, un corps, quoi, un corps en tant que tel. Il a des qualités, cette bande de filles a des qualités, quoi, une brume, une couleur, des sons, évidemment, vous travaillez beaucoup leur dialogue. Donc il y a vraiment quelque chose que vous observez. Mais de la même manière que vous dites, ce groupe-là a une aura de velours. Il y a aura de velours et blessures secrètes au même titre que la France, dont pourrait être une métonymie cette maison de la Légion d'honneur. C'est-à-dire que votre roman raconte les histoires secrètes de toutes ces jeunes femmes et chez toutes ces blessées, quoi. Et exactement comme la France, exactement comme la France à Saint-Denis et ailleurs.
Oui, c'est vrai que là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, il y a quelque chose dans. En fait, il y a des flashbacks, des analepses plutôt familiales, disons, sur le passé de ces adolescentes qui interrompent notre déambulation comme ça, quasiment en plan séquence dans l'école. Et oui, il y a un poids du passé. Et en fait, quand on parlait au début de ce motif de la médaille de la Légion d'honneur, il y a cette idée de la transmission, de l'héritage, voire de l'hérédité. Et je pense que c'est quelque chose qui est une matière horrifique en général, c'est-à-dire
de quoi
on hérite. Et alors les adolescentes qu'on enferme en plus, enfin je veux dire on pourrait citer une liste interminable de notamment donc de films d'horreur de série B qui abordent cette question. Mais là ça m'intéressait spécifiquement le fait que l'héritage, en l'occurrence, ce soit cette espèce de truc qui, en plus, en ce moment, est un peu obsessionnel, des valeurs de la République. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Je m'y aventure pas comme on le ferait dans un roman social ou dans une enquête sociologique. Mmh. Je m'en sentais pas trop ni les moyens, ni j'en avais pas le goût spécifiquement. Mais par contre, l'aborder un peu comme un film d'horreur et montrer que bah ouais, chez ces jeunes filles en tout cas, c'est un peu 50 nuances de violence coloniale.
Ouais.
Là, ça devenait intéressant pour moi à traiter par l'écriture et. Ouais.
On va écouter Laura, auditrice du Book Club. Elle vous a lu avec plaisir. Elle vous pose justement, vous parliez des séries B du cinéma, des questions d'influence.
Bonjour le Book Club et bonjour Lucille Nova. Lucille, j'ai lu votre livre « Voir venir » que j'ai adoré pour beaucoup de raisons, notamment pour l'univers. Il y a un côté très mystérieux et très feutré quand on lit votre livre. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'univers de Twin Peaks ou encore à l'univers de Sofia Coppola, notamment le film « Les proies ». Adapté du livre éponyme, un univers encore une fois avec une lumière tamisée, des bougies, quelque chose de très secret, comme si on gardait un secret justement pendant toute la lecture. Et c'est vraiment ça qui m'a plu pendant que je lisais votre livre, c'est cet univers dans lequel vous nous plongez. Et donc je me demandais quelles avaient été vos inspirations, que ce soit au niveau cinématographique ou au niveau des lectures. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous. Laura, bonne journée à vous, Laura. Inspiration, influence, Lucille Nova. Vous avez déjà donné quelques billes, mais...
Merci beaucoup, Laura. je pense que là, plus récemment, en fait, que je connaissais pas très bien au moment où j'ai commencé à écrire, mais qui a beaucoup, beaucoup influencé... Et qui m'a beaucoup donné de force. Il y a Marie Ndiaye, vraiment, je suis vraiment tombée dans la soupe, quoi. Enfin, c'est trop bien. Enfin, pardon pour cette critique de qualité, c'est trop bien. Voilà. Non, mais c'est tellement merveilleux, et notamment parce qu'elle arrive à faire peur. Et je pense que c'est pas la dernière à avoir vu tous les films de David Lynch, elle arrive à faire quelque chose entre la peur, l'étrange, l'inquiétante étrangeté. Mmh.
Et à ce compte-là, quand même, la vengeance m'appartient. Ouais, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est éblouissant. Et en fait, il y a quelque chose où elle arrive à en faire quelque chose, l'air de rien. Tellement politique, je dis l'air de rien dans le sens où elle va pas le dire après, elle va pas, voilà. Et donc voilà, ça, Marie Ndiaye m'a vraiment éblouie là-dessus, et du coup j'en fais, oui, une espèce de maîtresse, quoi. Et après, il y a de fortes influences du cinéma d'horreur. Je crois que ça s'est déjà entendu là dans ce que je racontais, et parce que j'adore, ouais, c'est que ce soit, je sais pas, l'exorciste de Friedkin, ou enfin la liste sera trop longue, mais Carrie.
Et pour des ambiances, Laura parlait de Twin Peaks, et aussi de quelque chose de la brume, de l'indétermination. Ça vous parle?
Oui. Oui. Je me dis qu'il faut laisser David Lynch tranquille parce que tout le monde parle de lui tout le temps. Mais bien sûr que je l'aime profondément. Et d'ailleurs, je lui rendais vraiment hommage dans les grandes largeurs, dans De Grandes Dents.
L'essai donc que vous avez fait paraître avant ce premier roman.
Mais ce que je veux dire, pardon, c'est que j'aime bien l'idée qu'il y ait quand même une forme de résolution. Ça veut pas dire qu'il reste pas du mystère dans le livre, qu'on peut interpréter de différentes manières cette histoire et son sens, mais je crois qu'on n'est pas dans le flou.
Vous y allez même franco côté résolution, on peut dire, Sinova. Y a aussi quelque chose que je voulais qu'on en parle, de très contemporain, c'est-à-dire qu'on a parlé des emprunts au conte, on a parlé aussi d'une forme d'archaïsme et de jeu avec l'archaïsme, mais il y a quelque chose du 21e siècle qui bat très fort dans ce livre-là, par les dialogues, par la manière dont vous faites parler ces jeunes femmes, par l'introduction, là, en l'occurrence, de messages vocaux sur les téléphones portables de Vanessa, où, c'est Mehdi, par exemple, ça va, c'est Mehdi, ça te dit un truc, je comprends pas ce que tu fous, je te jure, je commence à perdre patience. Et il le dit dans sa langue du 21e siècle, dans la langue des mots qu'on laisse en vocaux aux gens à qui on a envie de parler. De la même manière que, comme elles se parlent, ces filles-là, ben, c'est terriblement 21e siècle. Et je voulais aussi vous entendre sur ce côté-là, quoi. C'est pas que comment faire revivre les châteaux de princesses et les loups d'antan.
Oui. Oui, bah, j'avais envie que les dialogues, en effet, soient drôles. J'allais dire réalistes, mais en fait, réalistes, on s'en fout. Mais j'espère que, d'ailleurs, pas seulement dans les dialogues, mais j'espère que les dialogues sont assez vivants pour réussir à nous, ouais, à nous faire sourire par l'art de la répartie des personnages. Et voilà. Après, je trouve... Plus j'y réfléchis et plus je me dis que je peux pas opposer l'oralité. En fait, quand on parle d'oralité et en disant que dans le livre il y a des registres comme ça qui s'entrechoquent avec l'idée qu'il y aurait des passages un peu très écrits, assez hurlés dans le style et d'autres qui seraient donc par exemple des dialogues avec
moi je les sépare pas du tout. Ouais, moi, voilà. C'est vraiment dans la même dans la même écriture quoi. Ouais.
En fait, c'était pas si clair pour moi. Alors je me disais bien, faut pas séparer, c'est pas vraiment séparer, etc. Mais plus le temps passe, plus je crois vraiment que en fait, pour moi, l'oralité est tellement importante, mais notamment parce que j'ai tellement peur tout le temps de parler à l'oral, sauf en classe, où là, je sais pas, il se passe un truc particulier, mais là, je suis terrifiée, j'ai l'impression qu'on va rien comprendre à ce que je dis. Je suis toujours convaincue que ma parole n'est pas claire, et ça me trouble énormément, j'ai l'impression que c'est le chaos à l'intérieur de moi, et que j'arriverai pas à sortir une
galère
voix.
Galère très communément partagée.
Ouais, oui. et en fait, l'idée que par l'écriture... En fait, c'est comme si l'écriture était un vecteur pour accéder à, justement, une voix. Alors, peut-être une voix faite de plein de voix, mais une voix enfin claire et limpide. Et donc, pour moi, il y a autant d'oralité dans un dialogue entre les adolescentes qui parlent avec du vocabulaire fraîchement inventé dans la rue il y a 3 semaines. Et il y a autant d'oralité là-dedans que... dans le prologue de mon texte qui se veut très voilà, on nous installe dans la brume d'une atmosphère gothique et tout, mais je crois que même là, même dans cette page là il y a une personne qui est en train de parler, et que d'ailleurs ça joue, pour moi ça fait jouer l'effet de fantastique. C'est qui cette narratrice là?
Mais bien sûr, elle était une fois, et on a bouclé la boucle quand vous avez dit que ce qui vous marque dans l'enfance, c'est votre grand-mère qui dit des il était une fois, où tout se mélange dans l'Ancien Testament, des histoires ou de sa vie à elle. Le book club continue. Et c'est l'heure de l'agenda du Book Club. Focus aujourd'hui sur le festival Hors Limites, porté par l'Association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis et qui vise à promouvoir la littérature contemporaine dans tout le département du 93 à travers toute une série de rencontres et événements organisés dans 30 villes du département, ce depuis le 27 mars et jusqu'au 11 avril, c'est-à-dire ce samedi. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce beau festival dans la rubrique agenda de l'émission, mais on y revient aujourd'hui parce que on l'a dit, à la fois la ville de Saint-Denis, mais aussi le département du Seine-Saint-Denis est important dans votre parcours et dans votre écriture, Lucile Nova. Plusieurs événements sont organisés à Saint-Denis même, justement, dans les prochains jours. Ce vendredi 10 avril à 18h, à la maison de quartier de la Plaine. Franchement, j'y ai passé des bons moments, ça me revient à l'instant. Des sacrés battles de hip-hop dans les années 2000. On peut assister à une rencontre avec Olivia Mabunga, comédienne, autrice et metteuse en scène, qu'on a vue notamment dans les spectacles de Rebecca Chaillon. Elle y présentera un projet de théâtre documentaire mené dans la ville de Saint-Denis autour des pratiques d'éclaircissement de la peau. On pourra aussi le 11 avril à 15h30 à la médiathèque, cette fois-ci du centre-ville, rencontrer Laurent Godet, qui viendra parler de son dernier roman dystopique Zem, pour lequel on l'avait reçu ici même dans le book club. Et puis un dernier petit clin d'œil, cette fois c'est la ville de Bondy en Seine-Saint-Denis où vous enseignez, Lucile Nova. Vous remerciez d'ailleurs dans votre livre en fin d'ouvrage Un cœur gros comme ça, vos élèves qui vous apprennent tous les jours à raconter des histoires. Si le cœur leur en dit, ils pourront assister à la rencontre avec Hélène Zimmer le 11 avril également à 16h à la librairie Les Deux Georges de Bondy autour de son dernier roman Les Dernières Écritures, paru chez POL. Sacré programme. Allez, rendez-vous sur le site internet horslimites.fr.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on termine tous les jours le book club par ce qu'on appelle le grand jeu des pages musicales. On propose à nos éditeurs et on se propose à nous-mêmes de jouer à repérer des évocations musicales dans les textes. On a parlé de la manière dont votre prose se tisse, de ce qu'on pourrait appeler de l'intertextualité, parfois de citations, parfois même d'extraits de chansons. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu la place que vous faites aussi à cet autre, comment on pourrait dire, autre chant à bas bruit ? À la fin, vous mettez même une playlist.
Oui, la musique se fait plus présente à la fin de mon roman parce qu'il y a une boum. Un bal, pardon.
On va vers la fête.
Il y a un bal. Et donc, oui, c'est moins important pour moi dans les références. J'écris pas en écoutant de la musique ou rarement. Mais là, il y a donc notamment Billie Eilish qui est là. La sainte patronne de toute une génération actuelle de sad girls, comme on dit, et qui du coup devait se faire une place dans le roman vers la fin. Ouais.
Ça vous plaisait ce motif du bal à la fin ? Le fait que ça aille vers ça ? Ouais, c'était.
Pour le coup, ça va au-delà des limites du conte, quoi. Mmh. C'est vraiment et puis la danse a une grande importance dans ma vie personnelle aussi. Donc, le bal, c'était évidemment la fin, quoi.
On se quitte avec un extrait de votre texte, Lucille Nova, voir venir. À l'intérieur de l'auditorium, c'est déjà la fête. Les filles glissent en tous sens sur le sol ciré, tendent de grandes nappes, y sèment des chemins de table dorées, déroulent des banderoles, en équilibre sur les chaises, accrochent le long du mur des boas scintillants. Un chœur de voix claires répète dans les gradins « Toi, tu es né pour la folie, pour la lumière, pour des pays peuplés de rois ». Vanessa souffle dans des ballons de baudruche qu'elle épingle autour de l'issue de secours. À une fille qui passe, elle demande au vol « Excuse-moi chaton, j'ai pas mon tel, t'aurais l'heure ?» 17h50. Dieu, comme le temps passe vite, ils seront bientôt là. Et voilà la boum. On éteint la lumière. On remplit la salle.
Pour la petite, tes grands yeux écarquillés sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison.
Cette chanson, quand on la réécoute après avoir lu votre livre, elle est glaçante. Voir venir Lucille Nova, c'est le titre de ce roman paru aux éditions du Sous-Sol qui figure donc depuis peu de temps sur la liste du prix Goncourt du premier roman. On vous souhaite bonne chance dans cette course-là. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci infiniment à vous.
Au son aujourd'hui, c'était Clara Galivelle, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Julie Gastal, Léa Weissgruss et Alexandra Laibegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.